There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Effectivement, je me suis cogné le nez avec ce mot de partenariat parce que personne comprenait ce que je faisais. Et en fait, c'est un mot fourre-tout qui est utilisé à tort et à travers, qui est en plus difficile, tu vois, même pour le SEO. Je me suis dit, on va utiliser le terme co-marketing qui, alors je me suis dit, c'est sûr que je vais avoir des détracteurs, des gens qui vont me dire encore un mot du jargon qui veut rien dire. Mais en fait, le mot co-marketing, c'est une action de communication commune ou croisée.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing humain et épanouissement professionnel. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à développer votre business en ligne selon vos propres règles et avec des méthodes douces. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. On se retrouve aujourd'hui pour parler de partenariat, de co-marketing avec Caroline Mignot, qui est la fondatrice d'un SaaS, la plateforme Reachmaker, qui vise à mettre en relation différentes entreprises dans le but de co-marketer ensemble, de créer des partenariats. Parce qu'il est vrai que quand on pense au terme partenariat, bon, chaque personne a un peu sa définition, mais dans l'ensemble, on pense beaucoup au partenariat entre une entreprise et un influenceur, par exemple. Mais il s'avère qu'il est tout à fait possible, bien évidemment, pour deux entreprises, de travailler ensemble, de monter un projet ensemble, de se donner un peu de force ou de construire quelque chose, tout simplement. La plateforme de Caroline, Reachmaker, est là pour faciliter tout ça. Donc je me suis dit que ce serait intéressant, pour la première fois dans Build Yourself, d'avoir une entrepreneur qui est à la tête d'un SaaS, donc d'une plateforme de ce type, et non pas qu'il soit formatrice ou coach, même si c'est une des casquettes qu'elle est en train de développer. J'estime que son expérience est très intéressante, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont vocation à créer une plateforme de ce type. Donc au moins vous avez une idée de tout son parcours, de ce que ça implique de créer un SaaS et finalement quel est l'atout de ce type de partenariat, comment est-ce qu'on en obtient, c'est tout ce qu'on aborde dans cet épisode. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Salut Caroline, comment tu vas ?
Ça va très bien et toi ? Merci de me recevoir.
Bah écoute, avec grand plaisir, je sens qu'on va parler de... Alors je pense que c'est la première fois qu'on va parler de SaaS sur ce podcast.
Non.
Donc mais je te promets. Donc je n'ai que des gens qui vendent des formations, c'est bien, ça apporte un point de vue différent parce que je te donne mon point de vue sur le sujet. Je trouve que vendre des formations et proposer ses services, c'est bien, mais que c'est aussi important d'avoir un projet que tu peux développer sur le long terme, comme un SaaS par exemple. Donc c'est cool que tu sois là pour partager ton expérience.
Je suis complètement alignée avec toi. En fait, ça, ces formations, ça va très souvent ensemble. Et d'ailleurs, j'adore, un jour, on m'a dit... Donc déjà, pour ceux qui nous écoutent, je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'un SaaS. Un SaaS, c'est un logiciel en ligne. Et du coup, effectivement, sur le papier, c'est pas très sexy. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement, c'est un outil, une plateforme qui est hébergée sur les internets. Donc, du coup, à partir de là, on se dit, ah, c'est les fameux jobs dans la tech. Et en fait, souvent, bah, comme on est sur des nouveaux usages, justement, c'est indispensable de les coupler avec la partie formation. Donc, pour cette raison, vous avez beaucoup bah, de formations qui se transforment en SaaS, puisque c'est la seule, enfin, c'est une des façons pour les formations de scaler, de passer à l'échelle. Donc, tu vas avoir, par exemple, une agence comme Germinal, tu vois, qui est devenu un SaaS qui propose des formations où tu peux monitorer plein de choses. Et puis, bah, moi, à contrario, tu vois, c'est marrant que tu en parles parce que j'ai sorti un logiciel en ligne. Je sais que c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, donc vous savez à quel point on pivote souvent. J'ai sorti un logiciel en ligne et je me suis rendu compte, en fait, qu'on a toujours le biais par rapport à soi de se dire, mais ouais, c'est évident, c'est intuitif. Mais en fait, non. Donc, il va y avoir une partie formation, Safia, qui arrive. On n'est pas complètement en dehors des clous.
Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots déjà quel est ton job aujourd'hui et ce que tu fais ?
Avec plaisir. Alors, mon job aujourd'hui, c'est que je lance une plateforme qui permet, donc un SaaS, qui permet aux marques et aux entreprises, donc B2B comme B2C, de matcher pour débloquer des opportunités business. Je m'explique. En gros, je suis un peu un site de rencontre qui permet en fait à deux business compatibles de matcher ensemble. Et typiquement aujourd'hui, quand tu fais du partenariat, bah, c'est un peu un travail au doigt mouillé ou au réseau. Et du coup, bah, tu rencontres des gens, c'est au petit bonheur la chance, ou alors bah, tu y vas un peu au hasard. Et du coup, bah, tu perds beaucoup de temps. Il y a beaucoup de partenariats qui tombent à l'eau, qui se passent mal, parce qu'en fait, on se rend compte que les partenaires n'étaient pas forcément alignés et que c'est déséquilibré. Donc, un peu comme dans les relations humaines, finalement, bah, nous, on est un peu un marieur et notre algorithme, automatiquement, va repérer en fait, des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, mais en fait, va trouver le point de rencontre entre l'offre et la demande en ligne.
OK. Donc, cette plateforme, elle s'appelle Reachmaker. On va en parler juste après, mais avant, juste pour poser le contexte, est-ce que tu peux m'expliquer finalement ton parcours et ton expérience avec le marketing, tout ce qui t'a amené à créer cette plateforme aujourd'hui ?
Alors, moi, de base, ultra mauvaise en anglais, je pars faire mon stage de fin d'études à New York, aux États-Unis. Et en fait, j'y reste pendant 8 ans. C'est le stage le plus long de la Terre. En fait, au bout de 6 mois, je me disais c'est impossible de partir. Et après, j'y suis restée pendant 8 ans. Donc, j'ai alterné les expériences. J'ai bossé dans toutes les industries, toutes industries confondues. Enfin, vraiment, j'ai fait du bulk, j'ai fait du mass market, j'ai fait de la mode, j'ai fait de l'alimentaire. J'ai fait plein de choses. Et en fait, le trait commun, ça a été que, alors moi, je suis vraiment passionnée de marketing. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un métier qui n'est pas toujours apprécié. Mais en fait, moi, je suis dingue de mon métier. Et en fait, c'est ma partie. Pour moi, il y a beaucoup d'artistique dans le marketing. Et en fait, ce truc de créer des business, faire sortir des idées de sous terre, gérer toute la réalisation, en fait, m'a toujours passionnée. Et du coup, le gross marketing, c'est un marketing qui est très orienté justement à créer de la valeur. Et en fait, on a une vision sur toute la chaîne marketing. Donc, on travaille avec le produit, on travaille avec le service client. Et en fait, c'est un peu la partie, tu vois, quand on dit gross marketing, ça peut faire peur, ça peut sonner un peu ingénierie. Mais en fait, c'est vraiment, on travaille un petit peu comme un médecin, tu vois, bah, quand tu as mal à la tête, ça peut venir de plein de parties du corps. Et ben en fait, c'est exactement ça qu'on fait en gross marketing. On travaille l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, je suis tombée amoureuse du marketing et du gross marketing. Et du coup, je suis rentrée en France en me disant pourquoi est-ce qu'il y a autant de logiciels en ligne qui permettent de faire tout et n'importe quoi et pas du partenariat. Et le partenariat, pour moi, c'est le levier de croissance par excellence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on doit promouvoir son podcast comme toi et moi, quand on veut vendre un nouveau service, vendre une formation? On fait de la pub. T'en as parlé dans ton podcast, donc je sais que moi, je suis une grande fan de ton podcast et j'ai dévoré tous les numéros sur l'affiliation. J'adore. Vous savez que ça existe, mais typiquement, l'affiliation, pour moi, sachez qu'on fait partie des 10% en marketing à comprendre ce que c'est que l'affiliation. C'est pas encore démocratisé et c'est justement ce courant de formateurs qui travaillent dans le milieu de la formation et de l'éducation qui l'amène en France, mais aux États-Unis, l'affiliation, c'est déjà partout. Et ben moi, en fait, c'est ça que je veux faire entre marques. Je veux dire aux marques, aujourd'hui, vous êtes plus obligé de payer des régies comme Google AdWords, Facebook Ads pour, en plus, c'est un système d'enchères, ça met les gens en compétition. Moi, j'ai envie de dire, en fait, tu peux te servir de l'autre comme canal de distribution, quelqu'un qui a déjà ton audience chez lui et qui va t'aider à distribuer ton produit. C'est vertueux, c'est gagnant-gagnant et puis c'est plus naturel. Moi, j'adore.
Ça me parle beaucoup, effectivement, parce que c'est vrai que je suis aussi très collaboration et partenariat pour évoluer. Quand j'enseigne dans mes programmes à se faire connaître, Je dis toujours aux gens de faire des partenariats, en fait, d'aller trouver des gens avec qui collaborer, alors que ce soit pour des interviews sur des podcasts, pour faire des lives sur Instagram. Mais pour moi, je trouve que c'est un excellent levier qui, en plus, est gratuit, qui, du coup, convient à plein de gens. Et du coup, quand je me suis renseignée un peu sur Reachmaker, j'ai remarqué qu'une des difficultés que tu as rencontrées au lancement de ta plateforme, c'est que la définition du partenariat appartient limite à chaque personne. Chaque personne a sa définition du partenaire. Et du coup, quand, dans ta communication, en fait, tu as dû switcher et du coup opter notamment pour le terme co-marketing pour transmettre cette idée de « je mets en relation ».
Ouais, effectivement, en fait, la difficulté, c'est toute la difficulté de, tu sais, j'ai failli pas lancer ma boîte, parce que on dit toujours, quand t'as pas de compétiteur, t'as pas de marché. Alors, moi, pour moi, maintenant, je considère que c'est une croyance limitante, mais pour le coup, ça m'a retenu pendant 4 ans, ça m'a bien coupé les ailes, parce que j'avais toujours voulu lancer ce truc-là, mais je me disais, si personne le fait, c'est que... Donc, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, effectivement, la première difficulté, c'est que je suis sur un domaine où, en fait, pour l'instant, personne n'est allé. Du coup, c'est moi qui suis en train de me casser les os pour tout le monde. Ouais. Et je pense que je me dis, dans tous les cas, j'apprends tellement que j'aurais rien à perdre. Mais j'étais obligée de défricher plein de trucs. Et effectivement, je me suis cogné le nez avec ce mot de partenariat parce que personne comprenait ce que je faisais. Et en fait, c'est un mot fourre-tout qui est utilisé à tort et à travers, qui est en plus difficile, tu vois, même pour le SEO. Je me suis dit, putain, il y a tellement, tellement de plateformes qui permettent de trouver des partenaires. Et tu vois, même pour les humains, on dit partenaire. Oui. Donc, en fait, je me suis dit, on va utiliser le terme co-marketing qui, alors je me suis dit, c'est sûr que je vais avoir des détracteurs, des gens qui vont me dire encore un mot du jargon qui veut rien dire. Mais en fait, le mot co-marketing, c'est une action de communication commune ou croisée. Voilà. Et je me suis dit, en fait, on va partir sur une base vierge et saine. Et voilà, peut-être que je vais pivoter encore, mais pour l'instant, effectivement, le partenariat, je me suis dit, en fait, le mieux, c'est de complètement repartir à zéro ailleurs sur un autre terme.
Effectivement, je pense qu'au moins, t'es sûr qu'avec un terme comme ça, bon, au moins, on a la curiosité de se dire, OK, c'est quoi le co-marketing ? Puis finalement, vu que c'est ta définition, j'ai envie de dire, c'est clair, tu vois.
Je l'ai déposé en plus, pour te dire. Parce que c'est là-dessus que je voulais écrire un livre. Je me suis dit, en fait, ce truc-là, je pense à... Il est plus transparent comme terme. Et j'aime bien le concept de collectif, ouais. Co-création. Tu vois, c'est... Je sais pas, j'aimais bien ce truc-là.
Et alors, du coup, ta plateforme, est-ce que tu peux m'expliquer, avec des mots très simples, ce qu'elle permet de faire, en tout cas pour des marques, puisque tu nous dis que c'est pour du B2C, mais pour du B2B aussi. Ouais. Comment ça se passe, finalement, à l'intérieur de Reachmaker ?
Alors, comme je te dis, moi, mon problème, c'est que j'ai fait du partenariat pendant presque 10 ans et en fait, il n'y a rien d'automatisé, tu es obligé de tout faire à la main. Et ça veut dire quoi, tout faire à la main ? C'est soit tu donnes ça à un pauvre stagiaire qui est pour rien et qui va passer ses journées à aller écumer des profils social media pour essayer de trouver une marque à peu près sympa, soit en fait, tu as ta copine Nathalie qui, lors d'une virée en catamaran, te dit « je connais quelqu'un qui peut-être connaît quelqu'un dans telle boîte » ou alors tu as la chance d'avoir levé des fonds, d'être dans un incubateur, d'avoir une boîte super cool qui fait que tu as le bras long et tu peux contacter n'importe qui et tu auras un rendez-vous sans problème. En fait, moi, j'ai toujours eu du mal à trouver des partenaires parce que c'était, il n'y avait pas d'outils qui permettaient en fait de sourcer ça. Et puis surtout, tu te cognes le nez, tu fais 2-3 meetings avant de te rendre compte que ton partenaire, pour l'instant, toi, tu veux générer des leads à fond les ballons et lui, il se dit, bah moi, je suis en train de lancer un nouveau service. En fait, tu vois jamais de l'intérieur d'une boîte c'est quoi leurs objectifs marketing et tu n'avais pas un outil qui te permettait de cartographier. Tu sais, comme une page entreprise LinkedIn, les profils LinkedIn, mais en fait, à qui tu t'adresses, à qui tu vends, c'est qui ton persona, quels sont les types de partenariats que tu recherches, quelles sont tes priorités marketing, quels sont tes canaux forts. En fait, tu arrives sur ton profil Reachmaker pour n'importe quelle boîte, tu as des informations qui sont précieuses pour les marketeurs et qui déjà vont t'épargner 3 ou 4 meetings. Tu peux juste voir, oui. Bah moi, je cherche un partenaire dans la beauté. Tu vois, si demain, toi et moi, on lance notre crème, on va dire qu'on est une crème un peu éthique, peau mature, tout ça. On va dire, OK, bah notre cible, c'est les femmes à partir de 60 ans. Et notre canal pour se lancer, nous, on veut faire du YouTube à fond. Et bah, on va aller chercher une marque qui s'adresse à la même cible et qui va avoir 50 000 abonnés sur YouTube. Et en fait, là, tu peux choisir les industries. Donc, tu vas dire dans la beauté ou pas forcément dans la beauté. Et là, en fait, tu as juste un horizon infini de plein de marques qui vont avoir la même cible. Donc, en fait, l'idée, c'est au lieu d'aller acheter des audiences, partager-les.
Effectivement, c'est plus sympa, je trouve.
Bah oui, et puis c'est facile. En plus, c'est facile à faire. Là, pour l'instant, on est juste un site de rencontre. Mais à terme, ce que je voudrais faire, et tu vois, bah, pour le coup, j'ai plein de plus en plus de podcasteurs sur la plateforme. En fait, c'est pareil, quand tu es podcasteur, à part faire de la pub, c'est compliqué. Moi, en sortant de rien, j'avais pas de réseau. Faut aller trouver tes premiers invités. Mais quand t'as pas d'audience, t'as pas d'invité. En fait, sur la plateforme, tu crées ton profil podcast. D'ailleurs, je t'offre un profil avec plaisir, Safia. N'hésite pas. Mais du coup,
Je serais très heureuse de tester.
eh ben oui, j'ai par exemple Estelle Ballot du podcast
Ouais.
du marketing que j'ai fait aussi. À chaque fois, je fais un petit cadeau. Du coup, j'offre un abonnement Richmaker, mais ça me fait super plaisir. Et je trouve que pour les podcasteurs, pour mettre cogner les dents, pour aller chercher des invités, moi, j'ai pas besoin de sponsors. Mais quand j'ai commencé à traîner avec des podcasteurs, ils m'ont dit, mais j'ai envie de le monétiser parce qu'on sait le temps que ça prend, mais c'est la galère. Bah, c'est pareil, tu mets une offre, du coup, tu as ton profil. En disant, bah voilà, moi je traite d'entrepreneuriat, je traite de marketing, je traite, tu mets tes secteurs d'activité et tu dis, bah aujourd'hui je cherche à la fois des invités, je cherche à la fois des sponsors. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va matcher avec toi, et ben en fait, il va voir directement et c'est actionnable. Toi et moi, on adore ce mot-là, tu vois, c'est actionnable, c'est en fait, tout de suite, tu peux le mettre en place. Là, demain, tu as un match, il y a pas, tu vas pas chercher midi à 14h, c'est OK, tu vas voir, il y a deux offres en cours, OK, est-ce que je me greffe à une campagne ou sinon, tu utilises la messagerie, tu lui proposes un truc, et puis si tu es trop timide, tu peux envoyer un chat.
Ok, sympa. Écoute, ça m'intéresse. En plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas de podcasteurs dans mon audience, c'est-à-dire que j'en ai beaucoup. Puis même dans mon programme Dur Podcast, je pense que ça pourrait être une leçon supplémentaire dans le module monétisation. C'est une option qui finalement peut faciliter la recherche de partenaires et de sponsors, entre guillemets, quand tu es podcasteur, parce que tu sais pas vraiment où aller. Tout le monde n'a pas encore bien compris le pouvoir, la puissance du podcast, tu vois. Donc avec une plateforme comme la tienne qui crée des liens comme ça, c'est parfait. C'est aussi accessible, parce qu'on parle de marque de manière générale, aux entrepreneurs, aux toutes petites entreprises.
Oui, en fait, c'est ce que j'aime beaucoup parce que le postulat de mon produit, c'est un peu vraiment Richmaker est né de, en fait, le partenariat, les belles collabs, c'est l'apanage des plus forts, des plus riches, des boîtes qui ont déjà pignon sur rue. Et c'est vrai que quand on parle de partenariat, tu vois, tu vois Cityscoot et Uber, tu vois des Monoprix, tu vois des marques qui sont déjà établies, en fait, qui ont déjà pignon sur rue. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est, en fait, bah, pour les toutes petites boîtes, celles qui veulent justement lancer, tester, lancer leurs produits bah, sans se mettre trop en danger. Typiquement, tu vois, les crowdfunding, j'en ai beaucoup sur la plateforme qui viennent en me disant, bah, en fait, on me demande un prix, un truc hors de prix pour promouvoir ma campagne. Bah, moi, j'aimerais bien utiliser la force de frappe d'autres partenaires. En même temps, ça te permet de networker. Et quand tu vois, moi, ça m'a trop aidé. Honnêtement, moi, je suis passée par LinkedIn à l'époque. Mais quand j'ai dû lancer mon business de sous-terre sans réseau et tout, tu sais que même niveau pour avoir le moral et tout pour t'accrocher, c'est intéressant d'avoir des gens autour de toi. Moi, j'ai plein de copines maintenant qui font mon métier et ça ne remplace pas mes anciens amis. Mais par contre, c'est ultra important parce que quand tu parles de, tu vois, nous, on a des haters, il y a des gens qui copient, qui plagient nos contenus. En fait, ces trucs-là, tu racontes ça à tes potes, ils ne savent pas trop quoi te dire à part ça veut dire que ça fonctionne ce que tu fais et tu n'as pas envie d'entendre ça, tu
C'est
vois.
clair. Mais alors, du coup, je me suis posé, enfin, je me pose la question là, vu que c'est vrai que t'as lancé ça à partir de zéro, mais aussi et surtout, enfin, t'es une femme, quoi. Donc, est-ce que ça a eu de l'impact sur. Enfin, comment t'as vécu le truc, tu vois? Est-ce que ça a été difficile ou au contraire. Parce que le marketing, c'est un peu genre rentre dedans, enfin, l'image, rentre dedans, masculin et tout. Donc, toi, comment t'as vécu le fait de développer un SaaS en tant que femme?
Alors écoute, super bien. Franchement, après, je veux quand même faire un petit disclaimer. Je ne suis pas quelqu'un de susceptible et j'ai un peu les os solides parce que comme j'étais aux États-Unis, c'est un peu des bourrins. En gros, tu n'as aucune précarité de l'emploi maximum, tu n'as aucune zone de confort parce qu'à partir du moment où tu donnes plus de résultats, tu dégages en 15 jours, en fait, tu peux te faire virer sans aucune raison et repartir chez toi. Donc en fait, j'ai tellement été élevée à la dure que oui, je vais dire que j'ai eu. Il y a du machisme ordinaire, c'est vrai. Il y en a dans la tech, mais moi, de mon point de vue, et c'est pas du tout démago, ça a été une force de dingue d'être une femme. Et il y a souvent, j'ai eu moi aussi le syndrome de l'imposteur parce que Safia, on venait me voir et on me proposait des trucs. Enfin, j'ai été invitée à une interview il y a peu qui s'appelait Les Grands de la Tech. J'ai dit, bah, enfin, ah, ça fait même pas un an que ma plateforme est lancée. Et du coup, ouais, la journaliste était une femme et je lui ai dit, bah, je suis très flattée, mais en même temps, j'étais à côté de mecs qui avaient vraiment des boîtes qui généraient déjà des millions de CA et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais passer pour une prune d'être à côté de ces gens-là? Et au final, j'y suis allée. Donc, enfin, vraiment, voilà. Et je vais te dire, on se met des barrières, nous, mentales. Moi, je suis tombée sur des cons, mais des cons, il y en a partout. Tu vois, bizarrement, il y a aussi beaucoup de femmes. Moi, sur LinkedIn, par exemple, c'est surtout des femmes qui m'envoient des messages méchants. Là, il n'y a pas longtemps, on m'a accusé d'avoir acheté des followers sur LinkedIn. Donc, il y a une femme qui a fait un post immense. Safia, tu te souviens, tu me disais, ah, LinkedIn, ce n'est pas des bisounours. Bah, c'est vrai, il faut avoir les os solides. Je vais me coucher et je reçois plein de messages. Et on me dit, ah, juste pour te prévenir, Caroline, on est derrière toi, mais voilà ce qui vient d'être posté. Oh là, et alors, c'est quelqu'un que j'avais déjà bloqué parce qu'elle m'insultait en privé. Et en fait, la personne m'a tagué sur un post en disant que j'avais acheté des followers LinkedIn, ce qui n'est même pas possible. Enfin, tu vois, genre. Moi, je suis pas, en tout cas, je vais te dire, j'ai pas souffert des hommes plus que ça, j'ai pas souffert d'être une femme. Je trouve que on souffre de quand on a peur d'être mauvais, quand tu apprends un nouveau métier. Moi, je suis stagiaire entrepreneur, je le dis tout le temps. J'apprends, c'est un nouveau métier pour moi, je sais pas bien faire plein de choses. Bah forcément, on a des croyances limitantes. C'est plutôt ça dont j'ai souffert, honnêtement. Je trouve qu'il y a une prime aux débutants dans la tech. Et quand vous êtes une femme, si vous arrivez à lever vos barrières, ce sera plus un avantage qu'autre chose.
C'est bien de le partager. Et du coup, je me demande finalement, ça a été quoi ta stratégie pour faire connaître Reachmaker et te faire connaître? Parce que c'est vrai que tu mentionnes beaucoup LinkedIn. Est-ce que c'est la seule plateforme sociale, entre guillemets, sur laquelle vous êtes présent?
Alors, oui, alors je vais te dire déjà, comme je te dis, stage d'entrepreneuriat, au début, quand je lance Reachmaker, je me dis, je vais faire au maximum ce que je sais bien faire. Et ce que je sais bien faire, moi, pour le coup, j'adore connecter, j'adore les gens. C'est aussi pour ça que je suis arrivée en marketing. De base, je suis arrivée par la filiale sciences sociales. J'adore les gens, j'adore regarder les gens. Et c'est aussi comme ça que je construis mes strates marketing. Je fais énormément, énormément d'audits. Donc, en fait, Reachmaker s'est lancé en novembre. Moi, le projet, depuis mars, j'étais en train de planter des petites graines, de faire des interviews, de rencontrer des gens, et pas en mode networking, hein, tu vois, vraiment en mode « ça m'intéresse ce que tu fais ». Je ne parlais pas de Reachmaker, je ne parlais pas de mon projet. Je disais « ok, tu es directeur marketing, tu fais des partenariats, est-ce que je peux t'aider ?» J'offrais de l'aide gratos, je fais du consulting gratuit. À côté, j'étais encore en poste, hein, c'est aussi pour ça que je pouvais me le permettre. Mais du coup, j'utilisais tout mon temps libre pour rencontrer des gens, essayer de comprendre le problème. Et en fait, en fonction de ça, j'ai commencé à planter des petites graines. Et puis, bah, la vie est bien faite. C'est que les gens, ils rendent naturellement tout l'amour que tu leur donnes. Et au centuple, parce qu'en plus, ils en parlent à d'autres gens qui sont du coup, qui partagent ça aussi parce qu'ils trouvent que tu es quelqu'un de bien, parce qu'on leur a dit que tu étais le pouvoir de la recommandation. Tu vois, typiquement, on parle encore de partenariat. Et en fait, voilà, j'ai planté des petites graines pendant 6 mois. J'ai rencontré des gens, j'ai échangé, j'ai commencé à créer du contenu. C'est là où j'ai attrapé la maladie de la création de contenu. Où maintenant, je suis obligée, dès que j'entends un truc cool, je suis sûre que toi aussi, ça te fait ça. Dès qu'on entend un truc, on doit le convertir en contenu, on doit le partager.
Ouais.
Et c'est vraiment, c'est addictif. En fait, quand vous avez commencé à partager, déjà, un, c'est la meilleure façon d'assimiler une compétence. Et deux, les gens qui nous écrivent, qui nous disent « j'ai avancé grâce à toi », on se dit, en fait, on est dans une chaîne où on ouais. donne ce qu'on a reçu. Et je trouve, c'est ouf. Du coup, j'ai commencé à créer du contenu. Ça a marché tout de suite. Et là, c'est Snowball Effect. Bon, vous ne me voyez pas parce que vous écoutez le podcast, mais avec Safia, là, on est en visu. Et je fais le signe de quand ça s'emballe. Et en fait, c'est le Snowball Effect, c'est l'effet boule de neige. Où en fait, bah, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et en fait, et à partir de là, LinkedIn a commencé à décoller. Vraiment, on va dire 5 mois avant que je lance Reachmaker. Donc, mars-août, tu vois, je suis en train de planter mes petites graines. Et du coup, je lance Reachmaker en novembre. Et là, on a vraiment, enfin, ça a buzzé, entre guillemets, énorme terme de boomer.
Mais, c'est vrai.
Ça a bien marché, disons qu'on a eu une énorme traction. Mais parce que tu vois, je pense que un, c'était vrai. Les gens, ils savaient que j'étais mordue de mon truc et que j'avais une vraie vision derrière mon produit et pas, on n'avait pas fait une page about us en inventant une histoire de toute pièce. Les gens savaient que j'allais bosser comme une dingue aussi. Et il y a là, comme je te dis, il y a cette prime-là à la réussite. Quand les gens, ils voient que t'en as bavé, que t'as donné beaucoup, beaucoup, bah, le moment où toi, tu sors un truc, ils sont contents. Et du coup, le plan média de Reachmaker, ça a été ça. J'ai fait à fond rencontrer des gens, comprendre le problème, networker, échanger, me faire un réseau en France parce que j'avais passé 8 ans aux États-Unis et je partais vraiment de zéro. Ouais. Et après, du coup, LinkedIn, naturellement, oui, on est très présent sur LinkedIn. Instagram, j'ai un peu moins les codes, mais maintenant que je vais avoir suivi la formation de Manon, je vais pouvoir m'y mettre. Mais pour le coup, voilà, le plan média, pour l'instant, c'est fait. Baby steps, comme on dit, stage d'entrepreneuriat. Ce qui fonctionne, je le creuse. Et puis là, mon podcast aussi, j'ai lancé mon podcast Marketing Square. Je m'impose un épisode par jour, donc je me fais un sacré challenge.
Ah ouais?
Ouais, mais tu vois, en marketing, mal, hein, dans la partie marketing, ça y est, je suis première en podcast France, donc je suis super contente. Super. Comme quoi, ça marche quand on bosse de ouf, tu vois. Donc en fait, quand il y a un truc que j'aime et que je commence à avoir des signaux positifs, eh ben, j'y vais à fond et j'enclenche et ça devient mon canal, mais à la baguette de sourcier.
Et à quel moment tu te dis, Clubhouse, c'est chouette et je vais y passer du temps? Genre, tu vois, à quel moment ça intervient dans... Alors, je sais pas si ça fait aussi partie de ta stratégie pour faire connaître Richmaker, en tout cas principale, mais d'une manière générale, je pense que par répercussion, on te découvre sur Clubhouse et donc on découvre ce que tu fais et on découvre Richmaker, tu vois. Et à quel moment tu te dis, cette plateforme, elle me plaît bien et j'y vais?
Je découvre par hasard sur LinkedIn.
Ok.
Et en fait, j'arrive, et alors déjà, moi, je suis mordue de produits. C'est aussi pour ça que j'ai atterri dans le SaaS, vous vous souvenez, dans la tech. J'adore le produit en lui-même. Quand il y a des nouveautés, par exemple, quand il y a des nouveautés sur LinkedIn, ça vient, moi, je suis mais comme un enfant, tu sais, au moment de Noël.
Ouais.
Quand j'ai un nouveau truc à tester, c'est comme si j'allais déballer un cadeau. Donc, et ça, c'est pas tout le monde, hein, parce que moi, mon mec, il en a rien à taper. Mais à chaque fois, il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que je me rue sur... J'ai des réactions disproportionnées quand il y a des nouveautés produits. Et c'est pareil, quand mes nouveautés sortent sur Richmaker, mon développeur, quand il me montre ce qu'il a fait, j'ai la larme à l'œil. C'est un truc qui me... c'est la passion. Et du coup, j'arrive là-dessus et je trouve que l'expérience utilisateur ne ressemble à aucune autre. Et moi, je suis pas très réseaux sociaux, tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal avec Instagram. J'aime pas trop le fake, j'aime pas trop les logiques de je suis influent, donc j'ai plus de bénéfices que les autres. Je trouve en fait c'est pas si horizontal que ça, ce qui se passe dans le social media, c'est pas si horizontal, ça crée des strates. J'aime pas trop ces ambiances-là. Et en fait, Clubhouse, c'est un peu un anti-réseau social. C'est-à-dire que déjà, comme on est au début, tout le monde est à égalité. Et en fait, c'est assez jouissif parce que tu as des vraies conversations avec les gens. Il n'y a pas la frontière de le physique, t'as quel âge, qui est le mieux habillé, qui part en vacances dans les plus beaux endroits, qui, en fait, c'est juste, on est à poil sur Clubhouse. Et ça, j'adore. C'est très organique, finalement, ouais. Tu vois. C'est ta parole. Tu vois tout de suite les gens qui arrivent à écouter les autres. Tu vois tout de suite les gens qui ont besoin un peu d'écraser, qui prennent plus de place. Tu vois tout de suite ceux qui ont commencé par écouter. Et du coup, ils ont compris les codes. Et du coup, c'est des meilleurs modérateurs que les autres. Et en fait, je me laisse griser par ce truc-là. Donc, un, la nouveauté produit. Deux, l'effet vraiment très horizontal, sans artifice, très spontané. Et trois, ce que j'ai aussi adoré sur Clubhouse, c'est que tu es vraiment dans l'échange avec les autres. Et en fait, comme je te dis, quand il n'y a que la voix, tu passes au-delà de plein de frontières que tu avais avant. Tu étais beaucoup moins intimidée, tout ça. Et du coup, ça m'a permis vraiment de m'améliorer, notamment à l'oral. Moi, je suis une grande timide.
Ça se voit pas. Moi, je trouve, en fait, dès le premier moment où... à quel moment j'ai entendu ta voix? Je me souviens plus. Je crois que c'était quand tu m'avais proposé une room Clubhouse et que je t'avais demandé... Non, tu m'avais proposé un live sur LinkedIn et que je t'avais demandé un exemple. Et du coup, je t'ai écouté et je me suis dit, purée, elle a une éloquence. Enfin, moi, j'ai été scotchée tout de suite, tu vois.
Bah, ça me touche beaucoup ce que tu me dis et c'est vraiment que du travail parce que j'ai vraiment pas été aidée avec ça. Je suis une timide, tu n'as pas idée. Mais par contre, aux États-Unis, on m'a tellement toujours poussée à devoir prendre la parole, oser et à me dire c'est pas grave, t'es ridicule, tu dis une bêtise, c'est pas grave, tu dis que tu t'es trompée. En fait, ils décomplexent tellement que du coup, maintenant, voilà, on m'a toujours dit que je parlais trop vite. Là, en plus, aujourd'hui, tu vois, j'ai une voix nasale, mais j'ai des copines qui auraient annulé, tu vois, parce qu'elles se seraient dit ah, je suis malade, machin. Et ben, moi, on m'a toujours dit, t'y vas quand même, ma mère, même si j'étais malade, 42 fièvres, j'allais à l'école, même sur un brancard. Et en fait, voilà, il faut se forcer, il faut se pousser. Et avec le travail, vous allez quelque part devenir bon, même si vous n'êtes pas aidé de base. Mais moi, Clubhouse, Safia, j'en ai fait presque 8 heures par jour à des moments tellement. T'as compris maintenant que j'étais un peu obsédée.
Ouais.
Et je m'y suis mis et j'ai tout de suite, j'ai adoré. Et 8 heures par jour, en fait, ça t'apprend à parler, ça t'apprend à écouter aussi. Et ça, on a oublié. Enfin, moi, je trouve
Ouais.
que encore nous, on est sur un podcast, donc ceux qui nous écoutent, ils savent déjà écouter, mais on est tellement pris parfois dans le tourbillon de la vie, on arrive dans des ambiances de travail où il faut occuper la parole, il faut se vendre, c'est très assertif tout le temps. Et en fait, le moment où tu comprends que dans les échanges, quand toi tu écoutes, c'est là où vraiment tu apprends que toi, parler, mais quand tu écoutes, tu reçois. Et je trouve que enfin, moi, ça m'a vraiment apaisée là-dessus. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, et je vais m'arrêter là parce que j'adore Clubhouse. C'est vraiment, enfin, moi, je dis merci à ce réseau social qui est pour moi un anti-réseau social, justement.
Mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ton point de vue parce que c'est vrai que finalement j'ai pas eu tant de personnes que ça qui sont vraiment des adeptes de Clubhouse et qui l'utilisent sur une base régulière et qui prennent du plaisir dessus, tu vois. Donc c'est bien aussi d'avoir ton retour d'expérience parce qu'en fait on a tendance à être un peu un mouton et à faire ce que tout le monde fait. Donc je vais aller sur Insta parce que tout le monde est sur Instagram, je vais aller sur Facebook, machin, sans se demander est-ce que t'as envie de le faire toi? Tu vois? Genre est-ce que ça te plaît? D'être sur Insta, est-ce que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais? Si tu le fais pas, bah pose-toi les bonnes questions et t'es pas obligé d'y être en fait. Tu peux tout à fait développer plein de choses avec les ressources et les outils que t'aimes bien et qui te passionnent.
Ouais, et je trouve aussi, je suis sûre que tu vas pas me dire le contraire. Il doit y avoir plein de gens qui te demandent d'échanger une demi-heure sur leur projet, de les aider pour. Et ben, en fait, Clubhouse, c'est aussi, moi, ça m'a permis de désengorger cette partie-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve soit à devoir dire non pour éviter le burn-out, parce que je pense que les gens se rendent pas compte qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de messages et on peut pas passer nos journées. Et surtout, quand tu as envie d'aider les gens vraiment, ça s'arrête pas après la demi-heure de téléphone. Tu y penses après,
Ouais.
tu as envie de faire plus. Et du coup, en fait, moi, je recevais plein de messages de gens qui voulaient que je les aide et je leur disais, en fait, je suis en train, moi, de monter mon projet et j'ai du mal aussi on a tous les mêmes problèmes quand on lance son projet. Et du coup, je disais, là, je suis obligée de te donner rendez-vous il y avait des délais. Moi, je dis pas non. Mais par contre, en fait, j'ai un calendrier où tous les vendredis après-midi, toute l'après-midi, je fais que des rendez-vous où j'aide des personnes. Et le problème, c'est que bah, comme tu as beaucoup de demandes, bah, les gens finalement se retrouvent à râler aussi en disant, ah bah c'est dans 3 mois, moi je. Et en fait, Clubhouse, ça m'a désengorgé ça. Je vais te dire deux choses qui sont bien, c'est que tous les matins, du coup, de 9h à 10h, on fait une room où on aide les entrepreneurs avec leur marketing, leur acquisition. On est trois. Tu as Guillaume qui fait du SEO, Fabien qui fait la partie vente et moi la partie marketing. Et il y a aussi tous les gens qui sont dans la room et on est toujours plus de 50 ou 60 tous les matins. Et il y a beaucoup d'habitués. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un réseau d'entraide. Donc, en fait, les gens, ils montent sur le stage et un, t'as pas la peur de, tu sais, toi et moi, on est en coaching et parfois, on n'a pas la réponse. Parfois, on sait, les gens, ils nous parlent d'industrie, tu vois, dans le bâtiment. La dernière fois, j'ai une question sur de l'import-export de légumes. Parfois, on arrive c'est difficile d'être pertinent et moi, je trouve que c'est tétanisant parfois de pas pouvoir aider les gens, des gens qui t'aiment, qui placent beaucoup de foi dans le meeting et au final, bah, en une demi-heure, tu peux pas leur apporter des réponses. Et ben là, t'as toute l'énergie de la room. Tu peux prendre tous les cas, tu dis juste aux gens, bah, là, je ne peux pas en ce moment, donc soit on prend un café de 30 minutes dans 3 semaines et demie, 1 mois, soit tu viens sur Clubhouse dans la room, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y en a plein qui sont venus comme ça, qui au final en ont parlé à des potes, et c'est comme ça que cette room, elle perdure, et moi, aujourd'hui, elle est rentable pour moi, parce qu'en fait, c'est 1 heure que j'alloue, c'est 1 heure de mon temps que j'alloue, mais ça me permet aussi de me faire connaître, de gagner en crédibilité. C'est des gens qui beaucoup sont arrivés sur Richmaker. Donc voilà, aujourd'hui, quand on dit Clubhouse, c'est pas rentable, tout ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ma rentabilité et je trouve que c'est gagnant-gagnant fois 1000.
Mais ça me fait plaisir d'entendre qu'en fait que tu partages ton témoignage et ton expérience au final sur cette plateforme. Alors oui, tu accordes du temps, mais en même temps, les bénéfices, ils sont tellement nombreux. Je veux dire, pour 1 heure de ta matinée, quoi, c'est incroyable.
Exactement ça. Et c'est important parce que moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, c'est la première règle, c'est demander du temps à ceux qui vous inspirent. En fait, moi, on m'a jamais dit non. Et du coup, il y a eu un moment où c'était un peu difficile de dire rendez-vous dans 3 mois. Et je me suis dit, on va penser que je suis une pimbèche. Et du coup, Clubhouse, et d'ailleurs, tu es la bienvenue quand tu veux, parce qu'on cherche toujours aussi des gens pour nous aider dans les rooms. Nous, on est un peu les gardiens du temple. On l'a fait depuis 6 mois, cette room-là, mais on cherche toujours des gens pour venir nous aider, partager leur expérience. Et voilà, bah, ça te permet de bah, faire grandir potentiellement ton podcast, recruter des utilisateurs pour ton produit. On s'y retrouve.
Ouais, mais c'est intéressant. du coup d'avoir ton parcours là-dessus. On a abordé beaucoup de choses de manière... on a touché un peu à tout, pas vraiment de manière approfondie, mais moi je préfère qu'on aborde plein de choses et qu'ensuite les gens aillent faire leurs petites recherches en fonction de leurs besoins. Je sais que tu as une méthode très connue pour identifier les bons partenaires, mais on va pas la mentionner dans ce podcast et on va plutôt renvoyer les gens vers ta vidéo YouTube qui explique...
Oh bien, ça t'a plu ?
Ouais, franchement ouais, c'est simple, c'est actionnable, donc ça me plaît. Donc c'est une méthode avec trois colonnes. Que du coup on pourra découvrir à travers le lien qui sera dans les notes. Donc pour les personnes là aujourd'hui qui se disent « Ok, j'ai envie d'actionner de nouveaux leviers pour développer ma visibilité », mais ça peut être un bon moyen de le faire. Après, de toute façon, on peut te retrouver donc sur Clubhouse, sur LinkedIn. On a le site Reachmaker et d'ailleurs, il y a un petit outil très sympa, le Reach Calculator, qui est totalement gratuit et qui nous permet d'évaluer, si je ne me trompe pas, l'engagement de nos différentes plateformes.
En fait, j'avais tout le temps, et tu sais que je vais inclure le podcast dedans parce que j'ai eu plein de demandes. En fait, j'avais tout le temps, comme je bosse dans le partenariat depuis 10 ans, tout le monde venait me voir, mais plutôt sur la partie influence, les créateurs de contenu. Je me disais, Caro, j'ai envie de commencer à faire des posts payants, j'ai envie de rentabiliser mon audience, donc partout, hein, où que ce soit, sur Clubhouse, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit en podcast. Je lui dis, j'ai eu la question, donc on va l'intégrer. On me disait, mais combien je peux demander à une marque? Ouais. Et je trouve qu'il y a une espèce d'omerta là-dessus où finalement, on ne sait jamais trop comment se positionner. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé deux index médias qui sont très connus et qui ne sont pas en libre accès parce que ça coûte une fortune. Et en fait, j'ai croisé ça avec notre data chez Reachmaker. Et l'idée, c'est qu'on a mis un outil à disposition gratuitement de tous les créateurs de contenu pour toutes les boîtes. Alors, ce n'est pas granulaire parce qu'on sait que typiquement, plus petite est votre audience, plus vous avez des chances d'avoir du taux d'engagement. Mais en fait, ce qu'on vous demande, c'est quels sont vos chiffres d'audience, quel est votre taux d'engagement. Et en fait, je vous donne un prix indicatif de combien, par exemple, vous pouvez vendre un post sur LinkedIn. Moi, c'est pareil, je fais de la création de contenu sur LinkedIn. Quand j'avais des partenaires, parfois, on me proposait 200 balles, parfois, on me proposait 1200. Et en fait, je me suis dit, oulala, il faut remettre de la rigueur là-dedans. Et on sait que nous, surtout les femmes, on a toujours le complexe de on n'aime pas parler d'argent. Donc, en fait, avec cet outil, si jamais on vous pose une question, vous dites, écoutez, moi, j'ai utilisé cet outil. Ça brasse des milliers de data. C'est basé sur des milliers de data qui disent que, en fait, la bonne échelle pour vous facturer, c'est ça. Maintenant, on en discute, il n'y a pas de souci, mais mon référentiel, c'est ça. Et il me manquait cet outil. Alors, je l'ai sorti pour moi et je suis trop contente parce que ça sert aussi à plein de monde.
Et je te confirme pour la partie podcast, évidemment que c'est un format qui se développe et qui est encore assez récent. Et quand on me demande, moi, je dis des fourchettes en fonction de ce que je vois pratiquer sur le marché américain. Mais c'est sûr que si tu nous crées un petit outil pour le calculer, ça nous arrangerait aussi.
C'est dans le pipe. Non, franchement, je vais absolument le faire. Et justement, le seul problème, c'est que pour l'instant, j'étais sur les vues, sur les autres réseaux sociaux. Parce que ce qui est aussi génial, et ça, pour le coup, je suis hyper contente, unique au monde, c'est qu'en fait, tu peux le faire sur certains outils, tu peux le faire par canal. Mais moi, en fait, je te permets, c'est pour ça que j'appelle ça mesurer votre personal branding. En fait, tu vas mettre tous tes réseaux et je te dis, OK, quels sont, en fait, combien vaut ta communauté par canal? Donc, tu vois, moi, sur LinkedIn, par exemple, un post, c'est 1 200 €. Sur Clubhouse, une heure de room, ce serait 700 €. Et en fait, tu vois combien tu veux sur les réseaux, là où tu as le meilleur taux d'engagement. Donc, pour ceux qui sont un peu des flemmards de l'influence, je trouve que c'est vraiment utile. Et encore une fois, ça permet d'avoir un argument imparable quand tu négocies un partenariat.
Ouais, mais je suis très contente qu'on ait fait cet épisode ensemble parce que pour les entrepreneurs, qui nous écoutent, ils savent qu'il y a une plateforme à disposition pour trouver des partenaires. Peu importe le projet, que ce soit pour faire des ventes, pour gagner en visibilité ou autre, et qu'en plus, il y a des outils concrets qui permettent d'avoir une fourchette de tarifs qu'on peut pratiquer sur les différents sponsorings qu'on va avoir. Donc, merci beaucoup pour ça.
Merci à toi. Comme je te l'ai dit en off, mais je te le redis, quand j'ai découvert ton podcast, je crois que j'ai écouté tous les épisodes en 2 jours. Par contre, c'était l'été, je précise, ne pensez pas que je me la coupe douce, mais pour le coup, j'ai écouté tous les épisodes en 2 jours et j'adore ton podcast et quand tu m'as proposé d'être invitée, j'ai eu le cœur qui battait, je suis trop contente, vraiment, merci beaucoup.
Merci à toi, franchement, ça me fait trop plaisir de savoir que mes épisodes sont bingés, tu vois, comme une série. Quand on binge une série, c'est bon signe, donc je me dis, si on binge mon podcast, c'est bien aussi, quoi, ça me fait plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis d'en savoir plus non seulement sur le parcours de Caroline, mais également sur sa plateforme Richmaker, dont vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode, si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Et j'espère aussi et surtout finalement que ça vous aura donné quelques idées pour le futur de votre entreprise et tout ce que vous avez la possibilité de créer. Honnêtement, il y a autant de possibilités qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Donc voilà, si vous avez une idée, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, lancez-vous, même si vous serez la première et que ça va être un peu à vous de frayer un chemin. Je pense que le résultat vaut toujours le coup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de la stratégie.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.